test de la personne à distance. Test. Test 1, 2.
On t'entend.
Test de la personne à distance. Test 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Test de la personne à distance.
Ça a l'air d'être bon.
Aišku, o, jie atrodo, kad prisijungė. Jis taip gerai, mano garsas, bet...
Recording in progress. dear colleagues coming to us remotely. We're still waiting for one or two people for our physical meeting, but we should be getting started in about 3 or 4 minutes. Just bear with us. Thanks very much.
Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Merci, c'est bon.
So, dear colleagues, first and foremost, those of you in the room, I pay a warm welcome to you, to the National Assembly, after having visited the Senate. You will have seen the entire apparatus of the French Parliament. And I hereby open the last meeting of our working group devoted to the place of values in the sense of belonging to the European Union. So before we actually turn our minds to the substance of the report, given the amendments that have been handed up to me. I would like to underscore to what extent the work that we have embarked upon is, after all, unprecedented at the European level. There is no precedent, ladies and gentlemen, where national parliamentarians across the entire EU undertake to think all together in conjunction with colleagues of the European Parliament on European themes with due respect to their differences and their respective identities. By building these two working groups, our goal was to gauge our various differences in approach, but also to tease out points of agreement to turn these latter into recommendations. On the basis of your responses, I hope, in fact, I believe that we are on track for success. However, we still need to examine one or two amendments or considerations that have been handed up to us in a constructive spirit, handed up to us by the Portuguese and Italian members of Parliament. So what I suggest is we turn our minds to those comments, those amendments, in the order in which they appear in the report. So in our discussions, we've seen some positions detailed by the laid out by the European Parliament as opposed to national parliaments. And I think it'd be worthwhile saying that for us, we're not competing in any shape or form with the EU prerogatives, but I would underscore that we do have our role to play in this process, particularly, as I often reiterate, we are national MPs and we're in, we appear before our electorate, and of course, then we need to defend European positions in those localities, obviously showing due respect to everybody in the process. So let me return to the amendments and to the various comments that have been entered. So before proposal one, we have suggestions from our Italian colleagues. They're suggesting adding in the beginning of the report, a recommendation whereby the proposals of our working group be adopted by a plenary COSAC meeting in the form of a contribution addressed to European institutions and be subject to a joint statement by the Conference of Presidents of the Parliaments of the EU. Now, this provision has been retained by the other working group, it must be said. It will be right and proper that the Conference of Presidents of the Parliaments of the EU should be seized of proposals designed to reinforce interparliamentarian cooperation, because it's this latter that is its role to define the modalities. But I do think it'd be difficult to prescribe, even in conditional form, to that conference to get them to take up our proposals in a joint statement. So what I would prefer is that we simply write a contribution from the COSAC that be sent to the EU institutions and then hand it on for information to the conference of the presidents of the EU parliaments. So I let you mull that over or respond to that proposal. Marina, would you like to take the floor? Yes, thanks very much. This proposal we're happy with. Thank you very much, Madam Chair. The objectives of our amendment were simply designed to assert the fact that the proposals that have been put forward within COSAC and about revolving around this debate on rule of law, they should have more authority, more impact among the various institutions. Do forgive me, there was background noise. So that they should have more impact, the Conference of Presidents should be informed, in my view, of the findings, these conclusions, in order to reinforce its inter-institutional cooperation to make sure that the positive outcomes be brought to the fore, so that we end up with positive outcome flowing from my work. So I would agree with the proposal as set forward by Chair. So we can add that this is designed to reinforce cooperation between parliamentary bodies. Let's take the floor in respect of that. Seeing none. So everybody subscribes to that proposal. Okay. So let's turn to proposal one. Our Portuguese colleagues suggest that the forum for discussion to talk about the concepts of values of rule of law be simply informal. This request has been met by removing any reference to a convention.
Now, to propose qu'il soit précisé que la conférence sur l'état de droit sera informelle. Est-ce que vous souhaitez réagir? Tout le monde est d'accord avec cette proposition?
Bonjour, cher président. Je vous salue chaleureusement, et bien aussi tous les collègues parlementaires qui sont présents à Paris et aussi à la distance. En tant que représentants de l'Assemblée de la République portugaise, nous apprécions les efforts de la présidence française pour donner de la vraie substance aux conclusions et aux propositions de ces groupes de travail. Et on peut soutenir quelques des recommandations, mais il y a encore des doutes. Nous avons des doutes concernant l'idée d'une conférence européenne sur l'état de droit, même vis-à-vis de ce que vous avez dit, que cette conférence sera une conférence informelle. Nous mettons également en doute la proposition de constituer un groupe de travail permanent interne à la COSAC. Ces propositions nous semblent trop contraignantes pour les présidences à venir. Et en plus, nous pensons que ces propositions, des propositions aussi substantielles, n'ont pas été peut-être suffisamment examinées et suffisamment débattues. Nous avons déjà informé de cette préoccupation et je veux réaffirmer cette préoccupation. Je pense que peut-être notre ambition doit être d'apporter une contribution pour la définition de l'état de droit dans sa corrélation avec les valeurs qui sont consacrées dans les traités européens. Mais au-delà de cet objectif, je pense que nous risquons peut-être de confondre un peu les échelons institutionnels et les dimensions parlementaires nationales et européennes. Merci.
Merci. Est-ce que des collègues souhaitent réagir au doute, j'ai envie de dire, du Portugal, des collègues portugais?
S'il vous plaît, madame. Oui, je ne comprends pas ce que nos collègues portugais veulent dire quand ils affirment que cela devrait avoir une valeur informelle. Je ne vois pas la différence entre formel et informel, parce que COSAC peut soumettre des conclusions formellement. Cela ne veut pas dire que ni la commission, ni la conférence, ni quoi que ce soit obligé de les accepter, mais enfin, je pense que c'est formel. Je ne vois pas quelle est cette vocation de réduire un peu la valeur des conclusions.
Moi aussi, je trouve quand même, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je veux dire, nous ne posons pas en concurrence du Parlement européen, mais il s'agit quand même aussi de donner un peu plus de substance à nos travaux, aussi de la COSAC. Hein, et déjà, il y a un écho. Déjà. déjà, je veux dire, on a déjà supprimé le fait de parler d'une convention, donc on a dit une conférence sur les droits de droit, sur l'état de droit informel. Ça suit un petit peu aussi ce que nous a dit le consommateur, c'est de certaines manières de développer dans chacun de nos États membres une culture de l'état de droit, de regarder ça plus près. Je ne vois pas, du moment où on dit que c'est informel, en quoi ça pourrait être gênant et empiéter sur les compétences du Parlement européen. Et la création d'un groupe de travail permanent interne à la COSAC, je veux dire, c'est un peu laissé à la libre appréciation de chacun, hein, parce que c'est une proposition de dire dans les commissions des affaires européennes, il y a peut-être des collègues qui sont plus sensible à ces questions-là et qui ont envie de le suivre. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Mais ça pourrait quand même nourrir beaucoup plus facilement ensuite les travaux de la COSAC plénière. Oui, monsieur Hofreiter.
Oui, personnellement, j'approuve le fait d'organiser une conférence régulière sur le caractère de droit, et lorsqu'il s'agit d'une conférence informelle, à ce moment-là, cela ne pose aucun problème. Et même au niveau de la COSAC, il serait bien de traiter ces questions régulièrement sur l'état de droit. En fait, les parlements nationaux, nous devrions être les représentants directs des électeurs et devrions jouer un rôle plus important. Et c'est une occasion pour nous d'apporter aussi notre contribution. Et donc, je pense qu'une conférence informelle est déjà un petit pas dans la bonne direction pour pouvoir travailler d'une manière régulière sur l'état de droit. À mon avis, on devrait faire beaucoup plus et on devrait analyser beaucoup plus tous ces aspects. Car plus on prend sérieux ce travail, plus on crée un caractère obligatoire, plus notre rôle sera conforté et ce serait, je pense, une bonne chose pour l'Union européenne. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toutes ces propositions. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de scepticisme, mais personnellement, je dirais qu'il faudrait aller même plus loin et avoir un caractère beaucoup plus contraignant. Donc, mettons-nous d'accord sur un minimum informel et non contraignant.
Merci, Madame la Présidente. En suivant la ligne de mon collègue allemand, j'ai déjà pris la parole ce matin au Sénat. Je voudrais d'abord remercier la présidence française par ses résultats, ce travail de ces derniers mois. Moi, il faudrait remercier. Je pense qu'il faut mettre en valeur ce travail avec, disons, de la conférence pour le retour de l'Europe. Je pense qu'en tant que parlementaire, on a une opportunité unique, c'est ouverte. On est devant et surtout une part de valeur, ce qui est un risque. Je vais quoter quelqu'un qui n'est pas de ma famille politique, mais je vais quoter Verhofstadt qui disait à la clôture de la conférence sur l'Europe qu'on est devant une menace par rapport à l'état de, non l'état de droit, mais par rapport à la démocratie. Donc, je pense qu'on est dans une nouvelle dimension dans les années à venir, comme disait le collègue allemand, il faut même aller plus loin. Moi, je pense que c'est une opportunité pour les parlementaires nationaux de participer activement, d'avoir un rôle plus puissant et surtout de faire partie de cette nouvelle construction européenne qu'on a vécue et vue pendant la conférence sur l'Europe, où il y a eu ce mélange de démocratie représentative participatif avec les parlements nationaux. Je pense que c'est la première fois. Ça serait dommage de perdre cet élan. Par rapport à formel informel, je partage l'idée de mon collègue Sanchez. Ce qui est important, c'est d'être capable d'aller en avant et d'apporter un débat. Je comprends bien les préoccupations du Parlement européen. On a vu pendant la conférence sur le futur de l'Europe. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je veux finir avec un mot qu'a dit M. Rappin. On peut parler de convention, mais à la fin, il faudra une réforme des traités sooner or later. Donc on peut essayer de mélanger les mots. L'évolution est claire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et la parole est à Stéphane, Sénat italien.
Madame la Présidente, merci. Bonjour. Et toutes mes félicitations tout d'abord pour le semestre de présidence européenne. Nous savions que la France nous accompagnerait dans un moment difficile et les résultats ont été à la hauteur. Les résultats auxquels nous arrivons aujourd'hui avec ce groupe de travail sont également à la hauteur de la situation face à laquelle nous nous trouvons, qui est une situation compliquée. Je me joins aux collègues qui se sont exprimés avant moi, le collègue espagnol notamment et le collègue allemand. Je pense en effet qu'envisager une concurrence des parlements nationaux par rapport au Parlement européen est une erreur. La formalité, le niveau de formalité avec laquelle nous nous exprimons, elle est propre à la contribution que nous émettons, qui sont donc soumises aux organes compétents de l'Union européenne, qui prendront ensuite leurs décisions. Mais c'est dommageable vis-à-vis de notre rôle, vis-à-vis de l'importance que nous voulons reconnaître à nos rôles, que d'écrire informalité. Nous nous exprimons en tant que parlements nationaux de façon collégiale. Il est donc utile, à mon avis, de retirer le terme informel et au contraire, il est important de souligner le rôle de nos parlements, comme ont montré d'ailleurs les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je suis donc amplement alignée avec les deux collègues qui se sont exprimés avant moi, le collègue notamment de l'Espagne et de l'Allemagne. Merci, merci Madame la Présidente.
Merci beaucoup. Et à notre collègue Yuash. Votre micro. Est-ce que vous m'entendez?
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, merci à la présidente française pour cette approche extrêmement constructive concernant les amendements, notamment contribués par l'Assemblée nationale hongroise. J'ai également proposé certains changements mineurs. L'article 2 du traité de l'Union européenne représente un dispositif clé concernant notamment les travaux de ce groupe de travail, mais également sur la jurisprudence en la matière. C'était un plaisir pour moi de discuter avec les membres de la Cour de justice au Luxembourg. Concernant la formulation de l'article 2, on parle de la démocratie en général, sans qualifier le terme. Concernant le rapport annuel de la Commission sur l'état de droit, l'approche hongroise est critique de cette approche et pour l'instant, ce rapport n'a pas fourni une analyse objective, même si le projet de rapport représente un document équilibré. Merci également de nouveau à la présidence française pour ses travaux. Merci beaucoup.
Merci. La collègue Berlinguer. Sì, grazie Presidente.
Madame la Présidente, je me permets également d'intervenir au sujet de la question d'introduire le terme de formel ou informel avec en apportant une petite contribution de ma part. Je soutiens la proposition des collègues espagnols et allemands. Je considère en effet que nous, en tant que Parlement nationaux, sommes en effet des organes institutionnels. Donc nous ne pouvons pas penser que le produit de notre discussion, c'est un produit informel. Au contraire, tel produit est un produit nécessairement formel en tant que produit institutionnel. Par ailleurs, nous avons vu dernièrement que le débat sur les valeurs et sur l'état de droit se charge d'un poids de plus en plus important au sein de l'Union européenne et dans les décisions de l'Union européenne. Vis-à-vis également des parlements nationaux, la possibilité donc de mettre à la disposition des institutions européennes de la discussion commune que nous avons, le point de vue des parlements nationaux sur ces sujets est à mon avis important, permet de recoudre le tissu et le lien entre les institutions et les citoyens. C'est d'ailleurs ce dont nous avons aujourd'hui extrêmement besoin. Je pense donc qu'un groupe de travail sur l'état de droit et le produit du travail de ce groupe doit être nécessairement donc un travail de type formel que nous mettons en tant que Parlement nationaux, nous mettons à la disposition des institutions européennes dans un esprit de coopération, dans un esprit constructif. Merci.
Merci, chers collègues. En ce qui me concerne, évidemment...
Moi, je ne vois pas non plus forcément la nécessité d'ajouter le mot informel, parce que de toute manière, nous n'avons pas une réelle puissance juridique hein, avec une conférence annuelle. Comme ça, c'est une symbolique politique et je crois qu'on n'a pas besoin forcément de diminuer notre travail. D'une certaine manière, on peut aussi l'affirmer. Et avec ça, moi, je ne vois pas pourquoi on rentre dans le champ de compétences du Parlement européen, puisque quand on voit cette proposition de conférence européenne rassemble des représentants des parlements nationaux, des institutions européennes, des gouvernements, des autorités locales. C'est toujours dans l'objectif de développer cette culture d'état de droit. Mais par nature, c'est déjà informel, j'ai envie de dire. Oui, j'ai vu que quelqu'un souhaitait intervenir. Oui, chers collègues.
Thank you, Madame Chair.
Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup d'interférences de son, malheureusement, l'interprète n'entend pas l'oratrice. J'aimerais soutenir les propos de mon collègue portugais. S'il est possible de réunir ce groupe de travail de temps à autre, eh bien, il faut rappeler aux députés comment se concentrer sur les enjeux importants. Et c'était une réussite, à savoir d'auditionner les experts, les universitaires. Et il conviendrait de diffuser ces idées au sein des parlements nationaux, parmi nos collègues. Et c'est une démarche très productive. Et de temps en temps, il serait nécessaire d'avoir ce type de travaux axés sur ces universitaires et ces idées.
Merci beaucoup pour cette intervention. Là, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. On mélange un petit peu les propositions 1 et les propositions 6. Pour l'instant, on est sur la proposition 1 où on doit décider est-ce que cette proposition d'une réunion annuelle, d'une conférence annuelle qui n'est plus une convention, ça on a supprimé, est-ce qu'on y ajoute le mot informel, oui ou non? Moi, je pense que ce n'est pas la peine et donc je vous demande... Oui, monsieur.
Très brièvement, Madame la Présidente, je voulais évidemment m'associer au remerciement des collègues par rapport au travail que vous avez fait dans le cadre des travaux parlementaires au sein de la présidence française et qui nous ont justement permis d'approfondir un certain nombre de choses. Je pense que beaucoup de collègues étaient à la recherche, évidemment, de voies et moyens pour donner du corps à nos travaux. Et donc, vous avez fait des propositions qui étaient intéressantes. Et en quelque sorte, c'est cette volonté de poursuivre dans cette voie qu'il s'agit aujourd'hui d'examiner. Donc, un groupe de travail sur l'état de droit me paraît évidemment être quelque chose d'intéressant. Le débat sur la question formelle et informelle, effectivement, n'a pas beaucoup, me semble-t-il, d'intérêt, puisque tout cela s'établit tout de même dans le cadre des travaux de la COSAC. Et encore une fois, je crois que si nous voulons évidemment répondre à cette remarque fondamentale du sens que l'on donne à nos travaux, il faut pouvoir évidemment, à un moment donné, s'autoriser, travailler sur des questions aussi fondamentales que l'état de droit. Et le point de vue, évidemment, des parlements nationaux est important, puisqu'on l'a dit, et je le pense également, c'est un lien avec des réalités, celles qui sont sans doute proches des attentes de nos citoyens. Vous avez parlé de votre circonscription. On pourrait parler effectivement de ce rôle qui est le nôtre et qui justifie même finalement l'existence de notre organisation. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Et après ces interventions, je vous propose de reprendre suite à votre consensus, la proposition initiale. C'est une suggestion. En plus, on met bien suggestion. Il n'y a pas d'obligation ni rien de tout. Nous suggérons que cette réunion annuelle, après chaque report de la Commission européenne, et qu'on supprime le mot informel. Je pense que ce n'est pas la peine d'ajouter. Est-ce que vous pouvez vivre avec cette proposition-là? Je crois que ça ne porte pas vraiment à conséquence. En revanche, la proposition numéro 3, pour aller un petit peu dans le sens quand même de nos collègues portugais, de suggestions de nos amis portugais, ils disent de ne pas voir comment la Commission pourrait légalement inclure des recommandations dans ses rapports annuels. Ça, c'est par contre une proposition de la Commission même, hein, qui a déclaré de vouloir faire dans son prochain rapport, donc la publication est prévue pour le mois de juillet, des recommandations. En revanche, le fait que ces recommandations puissent être adoptées par le Conseil nécessiterait sans doute l'adoption d'un acte de droit dérivé. Et donc, je vous propose, comme l'a suggéré une collègue portugaise, de supprimer cette dernière suggestion. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des demandes d'intervention par rapport à ça? Donc, c'est la proposition numéro 1, donc on supprimerait. La Commission devrait systématiquement écrire dans ses rapports annuels des recommandations aux États et on supprimerait qui serait soumis au Conseil pour l'adoption. Pas de commentaires ici. Et donc, je reviens sur la proposition numéro 6 qui a déjà été évoquée par notre collègue portugais. Donc la chambre députée portugaise trouve discutable la création d'un groupe de travail, permanent interne à la COSAC, constitué des rapporteurs des commissions des affaires européennes pour suivre les questions liées à l'état de droit. Elle craint que la création d'un tel groupe détourne ou isole une discussion d'une importance vitale. Moi, je trouve, au contraire, qu'elle donnerait une nouvelle dynamique, comme je le disais tout à l'heure, aux travaux de COSAC sur ce sujet. Alors, par contre, pour trouver peut-être un compromis, nous pourrions nous accorder, comme le sujet à la Chambre des députés italienne, toute la référence au caractère permanent du groupe de travail. Dès lors qu'il sera convenu que ce groupe se réunira, on peut effectivement faire l'économie de ce qualitatif de permanent. Ça pourrait être un compromis. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nos amis portugais souhaitent réagir?
Merci, Président. Oui, on est en condition de soutenir la reformulation de nos collègues italiennes concernant le groupe de travail.
Merci beaucoup. Donc, nous nous avons terminé avec les remarques et amendements. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite encore prendre la parole pour conclure, pour Monsieur Pont?
Merci la présidente. C'est plutôt une remarque, une réflexion. J'avais envoyé un petit doc en parlant du fait. Ça m'a rappelé ce que la collègue italienne a dit par rapport à la relation entre les élus et les citoyens. Bon, il suffit de voir les pourcentages d'absents qu'on a élection à chaque élection. Et donc, ici, dans ce document, on parle des valeurs, on parle de l'état de droit, on parle d'une démocratie plus proche. Mais en même temps, on est toujours, quand on parle à la conférence, on a parlé à la conférence sur le futur de l'Europe, des difficultés pour arriver aux citoyens. Donc, j'ai répété plusieurs fois pendant la conférence sur le futur de l'Europe qu'en Europe, on n'a pas un mécanisme pour expliquer l'Europe aux citoyens européens et citoyennes européennes. On n'a pas non plus un mécanisme pour expliquer l'Europe, ce que l'Europe fait, aux citoyens qui ne sont pas sur nos continents. Je continue à dire qu'il y a eu un projet de Colin Mitterrand qui s'appelait Télévision européenne. Je ne sais pas si c'est la télévision parce que personne ne regarde la télévision maintenant, mais c'est curieux qu'on parle beaucoup de comment arriver aux citoyens, on ne parle jamais de comment faire pour se doter de mécanismes pour exprimer tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on a fait à la conférence, et exprimer ses valeurs, parler de ses valeurs avec nos conseillers. Donc ça, c'est une chose. Et la dernière, c'est que je pense qu'il faut, quelque part, si c'est possible d'ajouter, que vraiment, ce qui est en risque, c'est la démocratie. On est en train de vivre une période de déclin, d'érosion. Et je ne sais pas qui a dit ce matin qu'en fait, la démocratie n'importe à personne. Il semblerait qu'il n'importe à personne, que ça ne vaut pas la peine de voter. Donc on est à risque et grave, disons. Merci.
Je peux que donner raison, parce qu'on vit un moment très particulier. Moi, en ce moment, je suis aussi en pleine période électorale, donc le premier tour derrière nous, le deuxième tour des élections législatives est dimanche, et il y a quand même la moitié des électeurs qui ne sont pas allés voter. Dans mon département, ça va encore, 51%, mais c'est vrai que là aussi, quelque part, on pourrait presque lier ça à l'état de droit, parce que quand la représentativité n'est plus donnée, ça pourrait être une suggestion dans notre groupe de travail, une suggestion pour les réunions COSAC futures, pour les présidences futures, de mettre aussi à l'ordre du jour la thématique justement des élections, d'affaiblissement de nos démocraties par une abstention si forte, et comment cela se produit d'ailleurs de nos différents États membres. Je ne sais pas, je crois qu'on n'a jamais fait un benchmarking là-dessus, aussi sur notre mode électoral. Hein. Ça pourrait être aussi intéressant de savoir comment on vote et est-ce qu'il y a des États membres où la participation est plus forte due par le mode électoral. Je pense que ça pourrait être une très, très bonne suggestion. Moi, je propose d'annexer peut-être au rapport ce que vous nous envoyez.
Merci beaucoup. Permettez-moi d'intervenir, même si je le regrette après cette intervention tellement importante que vous venez de faire. Mais j'aimerais revenir à un instant, si vous le permettez, sur la partie du texte qui concerne la transmission des propositions à la conférence des présidents. En Italie, surtout à la Chambre des députés italienne, a eu lieu une grande discussion sur le sujet. Et je suis donc ici la représentante, la porte-voix de cette discussion. Donc, si j'ai bien compris, la proposition consiste à dire que les propositions de la COSAC sont transmises pour information à la conférence des présidents. Et je vois ici un risque si l'on parle d'information, car nous avons décidé un certain nombre de choses, nous en informons les présidents, et ces décisions seront mises en place. Je crains ce type d'interprétation de cette phrase. Alors peut-être, au lieu de dire que les propositions sont transmises pour information à la conférence des présidents, nous pourrions dire que les propositions sont soumises à l'attention de la conférence de présidents, et ainsi il serait clair que les choix seraient partagés et seraient fruit d'une entente. Merci.
Proposition très bien et plus précise que la simple information. Si vous êtes d'accord, on changera la formulation en sens soumise à l'attention de la conférence des présidents. Oui, et suggestion de rajouter peut-être afin qu'elle encourage les qu'elle envisage les mesures renforçant la coopération interparlementaire.
Oui, tout à fait. Ceci rendrait beaucoup plus clair la formulation. Merci beaucoup.
Alors, si plus personne demande la parole, si personne s'oppose à l'adoption des conclusions du groupe de travail, moyennant évidemment... Si, oui, cher collègue.
Madame la Présidente, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'aimerais commencer par féliciter la présidence française et vous-même également pour cette initiative extrêmement courageuse d'avoir abordé une thématique si importante et de l'avoir analysée. C'est donc une initiative très courageuse et qui a été très nécessaire. Je pense que la formulation et la proposition, les propositions elles-mêmes sont très doux par rapport à, au contexte auquel nous faisons face. On parle de oui ou non, il faut rajouter informel. Eh bien, dans le document, au début, nous parlons du traité de Rome et les générations des dirigeants européens d'il y a 65 ans, et nous parlons de cette période où l'Europe a été fondée et devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous y faisons référence avec énormément de fierté. Réfléchissons à ce à quoi les gens vont penser de nous d'ici 65 ans. Quand ils compareront ce qui s'est passé pendant le traité de Rome et ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est un moment de réflexion pour tous. Si la démocratie n'évolue pas, si l'Europe n'évolue pas, eh bien, c'est une tâche historique, c'est une responsabilité historique. Et je pense donc que cette initiative doit être rendue davantage plus opérationnelle pour qu'elle ait plus d'impact. Merci beaucoup.
Una breve reflexión. Esta mañana hemos estado en el otro grupo
y hemos hecho una reflexión. Ce matin, on était dans l'autre groupe, on a fait une réflexion dans le sens que toute proposition au niveau du Parlement national trouvera une certaine opposition de la part du Conseil, de la Commission. Et bien sûr, le Parlement européen.
Haciendo hoy aquí, y me alegro de que sea aquí en Francia, es la primera vez que yo sepa que se hace, es lo que los británicos que ya no están con nosotros calificarían de courageous, de valiente. Una cosa es una decisión brava, muy brava, otra cosa es courageous, valiente. So there is a translation in between Spanish and English. So it's not possible to translate from Spanish. No, okay, it's fine, it's fine. No, I was saying it's fine, it's fine. I was saying...
Alors, je disais à l'instant, selon toute probabilité, il s'agit de quelque chose de courageux, n'est-ce pas? Ce à quoi vous vous livrez aujourd'hui, enfin, ce que nous faisons en tant que donc au collège aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, nous rompons le statu quo. Alors, c'est très confortable, n'est-ce pas, de continuer comme avant. Le Parlement européen fait quelque chose, le Conseil des ministres, ainsi que la Commission, n'est-ce pas? Donc, le Parlement européen demande le droit d'agir et au sein de notre groupe, nous cherchons une voie semblable. Ici, nous parlons des valeurs européennes. Il s'agit là de quelque chose de crucial au sein de l'UE. Alors, là où je veux en venir, c'est que finalement, notre démarche est courageuse et c'est la raison pour laquelle il convient de s'atteler à cette question. Et je salue la France, je salue Jean-François, et je salue vous, Madame la Présidente, parce que nous ne nous sommes jamais livrés à cet exercice de par le passé. Maintenant, nous nous impliquons dans cette démarche. Alors, nous essayons d'épouser ce chemin et au fond, peu importe ce que dit le Parlement européen, ou même ce que dit la Commission ou ce que dit le Conseil européen, peu importe, il faut aller dans ce sens-là. Et les valeurs européennes sont critiques maintenant, mais l'avenir nous réserve autre chose, peut-être, mais il faut continuer à travailler. Alors, ce distinguo entre formel et informel, nous sommes ici des députés venus d'à travers l'espace européen. Peu importe ce que les gens, les uns et les autres pensent, on va nous prononcer. Nous allons faire ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire nous exprimer et par notre truchement la voix des citoyens et nous permettre d'informer les citoyens. L'occasion s'offre à nous, dès lors, de continuer à mener notre réflexion et faire entendre notre voix. Voilà, je vous livre cette réflexion à toutes fins utiles.
Si, chers collègues, je suis tout à fait d'accord, on a besoin d'être aussi courageux et d'aller de l'avant, mais bon, on a besoin également le consensus parce que c'est le premier pas qu'on fait et j'espère que les présidences futures reprennent un peu ces initiatives parce que ça aussi, ce n'est pas gagné. Donc, il faut aussi qu'on essaye, comme je dis, de donner beaucoup plus de consistance à nos travaux et ça se fera, j'espère, au fur et à mesure qu'on appuie. Cher collègue Bonos, la parole est à vous. Yanis Bonos, vous nous entendez? C'est à vous. Ah. Commencez-vous parce que je n'ai pas. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Bonus?
Vous m'entendez? Oui, très bien, enfin. Le collègue, je m'appelle Yanis Bonus du Parlement national grec. Alors je souhaiterais saluer la présidence française d'avoir souligné les travaux de la COSAC, les travaux, les débats de celle-ci ont été précieux pour nous permettre d'y voir plus clair. Donc, je souscris à ces propositions. Et s'agissant de réunions futures de la COSAC, je salue la contribution des universitaires, des éclairages utiles, mais il faut voir davantage de débats entre députés sur des questions pratiques. Pour ce qui est des conflits sur les valeurs européennes, ces conflits qui se font jour entre nous, entre les États européens. Merci de votre écoute.
Merci. Vous souhaitez encore réagir, Max? Oui, allez-y.
Thank you, of course. Merci. Bien entendu, je souhaiterais de mon côté, saluer vos efforts, cette tâche très, très ardue. Merci, Madame la Présidente. Alors, je souhaiterais, ici même, et peut-être mon propos nous amènera vers l'avenir, je souhaiterais élargir notre vision pour embrasser d'autres thématiques. Dans ce rapport final, nous avons dit que l'UE doit se fonder, doit reposer sur l'état de droit. Le rapport a fait état de la chose suivante. L'UE est un dispositif juridique, mais également philosophique. Très bien. Mais je suis persuadé que nous avons manqué de nous saisir la question des aspirations de l'UE, c'est-à-dire la politique en tant qu'État, la politique qui doit être régie par, doit être comptable devant le peuple. Ce qui signifie qu'il convient de susciter un sentiment d'appartenance, un sentiment de pouvoir contribuer. Ces valeurs et ce sentiment d'appartenance, cela doit tendre vers un but. Le sentiment d'appartenance en tant que tel, c'est quelque chose de passif. On se sent, on éprouve une certaine appartenance à quelque chose, mais une participation, une contribution, ça relève d'une démarche active qui repose sur une conviction que l'on s'intègre à quelque chose. Les valeurs européennes doivent alimenter ce sentiment de contribution. En tant que citoyen européen, on doit se sentir impliqué. Les citoyens doivent se sentir impliqués. Leurs volontés doivent être traduites sur le terrain et leurs intérêts doivent être convenablement représentés. Donc, peut-être c'est un jeu sémantique entre appartenance d'un côté et participation de l'autre. Peut-être c'est un chemin à adopter pour nos échanges futurs. Ça peut être un jeu sémantique, mais il y a quand même du fond. Merci.
Merci pour ces observations. Est-ce que... Oui, allez-y, cher collègue. Monsieur Stier.
Yeah. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais m'associer aux félicitations à l'adresse de la présidence française pour ce qui est de cette initiative. Notre collègue espagnol a qualifié de courageuse et effectivement, c'est un bon objectif et le vôtre. Je dois dire, je m'attendais à un débat un petit peu plus nourri pour ce qui est des valeurs qui prévalent au sein de l'UE. Alors, j'ai été déçu. Peut-être qu'il y a cette agression russe qui a braqué le regard sur un terrain davantage partagé qu'auparavant, peut-être. Et peut-être que nous soignons désormais les valeurs démocratiques, l'état de droit, ce que cela signifie pour nous et pour les générations futures de citoyens européens. En tout état de cause, ce texte, me semble-t-il, a trouvé le bon point d'équilibre. Peut-être notre collègue roumain l'a qualifié de modeste, mais bon, pour l'instant, je pense que les progrès que nous pouvons réaliser à ce stade à travers le texte est quelque chose qui nous trace un chemin que nous pouvons, sur lequel nous pouvons nous engager à travers les présidences futures. Et donc voilà, au fond, je souscris à ce texte. Merci.
Merci beaucoup, chers collègues. Moi, je suis d'accord avec vous, on aurait pu être plus ambitieux, on aurait pu approfondir un peu plus cette notion aussi de valeur sociétale, mais il est vrai aussi qu'on avait peu de temps. Donc, malheureusement, parce qu'on avait fait, nous, la demande de commencer ce travail beaucoup plus tôt, sous la présidence slovène. Bon, ça n'a pas pu se faire. On est quand même aussi dépendant de l'avance après, la présidence tchèque. Et vous savez bien qu'on ne peut pas imposer des sujets aux présidences. Dans un laps de temps malheureusement trop réduite, mais j'espère que la petite graine a été semée, parce que c'est la première fois quand même qu'on utilise la possibilité de règlement de la cause à mettre un groupe de travail en place. On tâtonne aussi un petit peu pour le faire, mais peut-être par la suite. Et là, je compte sur nous tous de pousser dans le bon sens. Et je vous remercie pour vos mots. Et est-ce que... Oui.
Madame Chair, my name is
Guy Mokola est mon nom. Je ne suis pas membre de ce groupe de travail. J'ai rejoint un autre groupe de travail sur l'affranchissement des parlements nationaux. Je suis finlandais. Et au début de ma carrière, le format parlementaire était quelque peu différent. Bon, début 2000, à l'époque de la création de la Constitution européenne et puis le traité de Lisbonne, c'est mon parcours. Mais je chapeaute la délégation finlandaise auprès du Conseil d'Europe. J'en viens à ma question, les questions de valeurs et les valeurs communes à travers l'espace européen qui anime les citoyens au sein de l'UE. Alors, un anicroche là que je vous soumets. Enfin, j'ai suivi vos débats, mais je ne sais pas. Mais vous connaissez très bien le caractère symbolique, si je puis le dire ainsi. Enfin, le drapeau européen nous vient du Conseil d'Europe. Et je le salue, ce qui incarne les valeurs que nous défendons en Europe. Et pour être éligible à une adhésion à l'UE, et bien entendu, il importe de signer la Convention européenne sur les droits de l'homme et être membre au préalable du Conseil d'Europe. Sans quoi, vous n'êtes pas éligible à l'adhésion de l'UE. Et pour parler de valeurs, il y a le vocable union qui est incarné par le Conseil d'Europe, hein, qui incarne à son tour les valeurs. Et vous ne pouvez pas être membre de l'un sans être membre de l'autre. Bon, donc j'en viens à mes questions. Bon, mon préalable a été un peu long, mais il y a un problème, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Union européenne, en tant qu'institution, une question de prérogatives juridiques, parce que les États membres sont signataires de cette Convention des droits de l'homme à l'échelon européen et bien entendu sont tenus de suivre la jurisprudence qui découle du Conseil d'Europe. Bien. Mais une question à Strasbourg est la suivante. Est-ce que l'Union doit signer la Convention européenne des droits de l'homme et rejoindre les structures du Conseil? Alors, est-ce que vous en avez parlé dans vos groupes de travail? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être trop tard de vous en saisir, mais quand même, pour rappel, l'organisation de base pour ce qui est des valeurs, c'est bien entendu le Conseil d'Europe et les membres de celui-ci. L'UE, évidemment, souscrit aux mêmes valeurs. Mais enfin, bon, c'est une question que je vous pose, Madame la Présidente.
On a bien sûr, on l'a évoqué dans le sens où on avait dit qu'il n'y avait pas de définition propre donnée de l'Union européenne par rapport à l'état de droit. L'article 2 parle simplement de l'état de droit sans dire quels sont ces éléments de l'état de droit. On est un peu parti dans nos travaux de cela en disant que oui, il y a le Conseil de l'Europe, oui, il y a la Commission de Venise, qui, elle, a donné ses définitions, mais nous-mêmes, nous, ce qu'on entend par là, parce qu'il y a aussi des éléments qui ne se trouvent pas, comme par exemple les médias libres. Est-ce qu'il faudrait faire évoluer cette définition d'état de droit? Et notre souci, c'était justement de lier aussi à des valeurs sociétales. Donc, mais on n'a pas eu assez de temps pour le faire. Bien sûr, vous avez raison de rappeler cette relation entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Maintenant, c'est un vieux serpent de mer aussi juridique, cette histoire d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Les juristes ne sont eux-mêmes pas forcément d'accord là-dessus, et surtout les deux cours. Enfin, il y a une question de deux cours, de primauté de droit européen, etc. Enfin, c'est un très long débat là, qui dépassait quand même un petit peu le cadre qu'on s'est fixé pour notre groupe de travail. Oui, Monsieur Spire.
Yeah. Thank you, Madam Chair. Just
alors, juste
quelque chose dans la foulée de ce qui a été dit par mon collègue finlandais. Et puis, je travaille aussi dans la délégation parlementaire auprès du Conseil d'Europe. Alors, une question qui n'a pas été décidée jusqu'à présent, mais ce qui a été décidé par le comité des ministres et soutenu par la commission parlementaire d'organiser le quatrième sommet du Conseil de l'Europe, où c'est précisément cette question, de même que la synergie qui existe entre le Conseil de l'Europe et l'UE, cela se fera au centre de débat. Donc, effectivement, il existe une ambition qu'à l'occasion de sommets de chefs d'État et de gouvernement, avec aussi des éléments avec une présence parlementaire, cela sera peut-être organisé d'ici jusqu'à la fin de l'année. Bon, voilà. Donc, je vous le signale. Ce sera pour la présidence tchèque. Éventuellement, elle pourra en tenir compte. Merci.
Merci. Donc, s'il n'y a plus de demandes de parole et si personne ne s'oppose à l'adoption des conclusions du groupe de travail, moyennant bien sûr les modifications évoquées, peut-être pour précision aussi, Philippe, il y a eu un coup. Du vice-président du Parlement européen, Oleg Otaras, qui a confirmé aussi que le Parlement européen, et d'ailleurs j'ai presque envie de dire heureusement, ne s'opposera pas à un éventuel consensus entre parlementaires nationaux. Vous voulez rajouter quelque chose, cher collègue?
Il me semble que je peux parler en espagnol, n'est-ce pas?
Non,
français.
Non, on peut parler en espagnol, aucun problème. Pas de problème.
Ah, alors je parlerai en espagnol.
Très bien, je vais donc m'exprimer en espagnol. Alors, ce que je vais dire vient un peu d'une suggestion de Monsieur le sénateur Rapin, qui vient de l'autre groupe de travail, parce que moi, je n'ai pas participé aux séances de ce groupe de travail auquel je n'appartiens pas. Mais je voudrais porter ce commentaire, cette observation. Et l'occasion me semble tout à fait excellente. J'ai dit dans le groupe travail, l'autre groupe de travail, que je voulais faire part d'une réflexion qui n'avait aucun effet pratique, aucune retombée immédiate, mais qui porte sur ce que le groupe que je représente et qui fait partie du groupe ECR au Parlement concerne un peu les excès d'arrêt de la Cour de justice européenne. C'est-à-dire que la Cour pourrait parfois statuer au-delà de ses compétences. Et je vous donne deux exemples. D'abord, le cas de la Pologne. Nous avons ici des représentants du Parlement national polonais et qui portent sur la composition de la Cour suprême de la Pologne. Et il y a cette question si débattue de la primauté du droit européen sur le droit constitutionnel des États membres. En France, il y a sur cela toute une jurisprudence concernant le Conseil d'État agissant de façon juridictionnelle. Et puis, il y a aussi le précédent de la Cour constitutionnelle allemande. Ce sont des cours d'États membres de première importance, l'Allemagne, la France. Et la Cour de justice européenne, me semble-t-il, a une opinion un peu tranchée sur cette question. Et quelques doutes se sont éveillés là-dessus. L'ordre juridique européen ne fait pas partie d'une détermination constitutionnelle, comme c'est le cas dans chacun des États membres. Et il faudrait donc y réfléchir, se demander si, à l'avenir, il ne faudrait pas prévoir une réforme des traités permettant de mettre en place un contrôle des arrêts de la Cour européenne de justice lorsque ces résolution semblerait dépasser le cadre de ses compétences. Il n'y a là rien d'aberrant ni d'insolite, car l'ordre juridique européen est comparable à quelque chose qui relève d'une constitution nationale. Donc, il n'y aurait rien d'aberrant à remettre en question, disons, les arrêts de la Cour européenne de justice. Je vous remercie.
Chers collègues, avant de vous répondre, je reprends mes conclusions quant au groupe de travail. Donc, comme il n'y avait pas d'opposition, je vous propose donc de considérer que les conclusions du groupe de travail sont adoptées par consensus et seront donc transmises à la future présidence tchèque de la COSAC. Alors, je vous remercie pour cela. Et pour répondre aux collègues qui viennent de s'exprimer, justement, c'est dommage, je ne suis pas venue à notre voyage à Luxembourg où on est allé à la rencontre des juges de la Cour de justice. Certains d'entre vous étaient présents, on a discuté donc avec des juges, avec le président aussi, Paul Lennart, et il a dit quelque chose que je trouve de très intéressant. Qu'on fasse très attention aussi aux mots. Par exemple, quand on parle de primauté de droit européen, par certains, c'est compris comme étant de la suprématie. Or, en réalité, quand on regarde bien, ce n'est pas la suprématie. Et il a donné l'exemple du mot allemand, qui est Anwendungsvorrang, parce qu'en réalité, ça exprime beaucoup mieux qu'on se trouve plutôt dans une concurrence des droits. Dans l'application. Et ça ne veut pas dire que le droit européen est supérieur au droit national, mais suivant les thématiques, c'est l'une ou l'autre, l'un ou l'autre droit qui est appliqué. Et c'est ça. Et je crois qu'il faut qu'on fasse, bon, ça dépasse maintenant le cadre de notre groupe de travail, mais je crois qu'on a beaucoup de clarifications à faire. Et comme très souvent d'ailleurs, quand on discute des questions européennes, il y a ces mots, ces vocabulaires, ces notions qui sont par les uns et les autres interprétés différemment parce qu'on n'a pas les mots forcément dans notre langue. Il y a certaines langues qui sont plus précises, comme l'allemand, où on compose des mots donc, ensemble. Mais je crois que rester aussi, et les juges disaient, on a besoin de vous, les législateurs, on a besoin de vous, les parlementaires, parce que dans certains arrêts où on a l'impression qu'ils dépassent un peu leurs compétences, ils nous mettent aussi le doigt sur des trous dans la raquette, en fait, de ce qui manque dans nos législations. Et c'est là que c'est à nous aussi d'intervenir. Donc, c'est pour ça que j'avais fait cette proposition de nous déplacer aussi à Luxembourg pour voir un petit peu, pour attirer notre attention en tant que législateur sur le fait qu'il n'y a pas que la nécessité de dialogue entre les juges, mais aussi le dialogue entre les parlementaires et les juges. Voilà, je vous remercie et je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir pris de votre temps. Je sais que pour les parlementaires, c'est toujours une forme d'acrobatie de se lancer dans le groupe de travail, dans un travail qui est supplémentaire, qui se rajoute en fait à notre travail national. Donc, merci beaucoup parce que je suis toujours intimement persuadée qu'on doit s'impliquer plus ça fait aussi. Et maintenant, je vous propose, si vous le souhaitez, une visite au musée Rodin, tout proche d'ici, de notre réunion et le commissaire de la mission va vous guider, si vous le souhaitez, avant de nous retrouver pour un moment convivial ce soir. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien qu'on fasse une photo. Une photo de groupe dehors tous ensemble. Merci.
Recording stopped.